ラフトレ
Bonjour et bienvenue dans Jaftamer 93, l'émission sur la famille contemporaine depuis l'association Équité Parentale. Aujourd'hui, le second épisode de ce qui est en fait une émission en trois parties avec Alain Rioux du Québec à propos de la loi 15. Nous avons vu la semaine dernière qu'au Québec, une loi de la DPJ, Direction Protection de la Jeunesse, l'équivalent de l'ASE, anciennement la DAS en France, était sur les rails et les starting blocks, et cette loi affaiblit considérablement les droits des parents biologiques et donne de fait les pleins pouvoirs à l'État québécois pour aller dans les familles et enlever les enfants pour les placer de manière quasiment systématique sans aucun contre-pouvoir. Nous verrons aujourd'hui que le personnel utilisé dans cette DPJ protection de l'enfance est sous-qualifié et effectivement que cela porte à tous les abus que l'on peut imaginer. C'est intéressant pour nous parce qu'il y a un mouvement global et massif qui se met en place au niveau de l'Occident afin de faire passer les droits des enfants, faire une primauté du droit d'intervention au niveau de l'État et non plus du parent biologique. Or, il est de plus en plus évident que dans les tribunaux, que ce soit en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Angleterre, enfin dans l'Occident de manière générale, ainsi qu'au Québec et au Canada, les parents naturels n'ont aucun moyen de se protéger contre les allégations qui peuvent être faites contre eux. Nous allons donc continuer aujourd'hui à en parler avec M. Alain Rioux, qui représente 15 000 parents à l'Assemblée nationale du Québec. Mais tout d'abord, voici un appel de Carl Zéro à destination des candidats à l'élection présidentielle. Sa production 1 sur 5 d'il y a quelques semaines, pourtant remarquable, est passée relativement inaperçue auprès de l'ensemble de la population. Et pourtant, qu'est-ce qu'un pays qui ne prend pas soin de ses enfants ? Nous sommes d'accord, il faut prendre soin de ses enfants. L'important, c'est comment et l'important surtout, c'est quelles sont les priorités.
Salut à toutes celles et ceux qui ont vu 1 sur 5, le film contre la pédocriminalité, et qui ont compris l'extrême gravité du problème en France, qu'il était temps de se réveiller pour éradiquer ce fléau. Parmi vous, il y a des militantes et des militants politiques. C'est à vous que je veux m'adresser aujourd'hui. Nous avons envoyé à tous vos candidats 13 mesures d'urgence que nous souhaitons voir se transformer en loi dès la prochaine mandature. Nous souhaitons pouvoir en débattre avec eux, avec elles, et filmer ces débats afin que chaque électeur puisse voter en connaissance de cause. La cause, c'est celle des enfants, et c'est à nos yeux la plus importante de toutes. À ce jour, à 2 mois du premier tour, nous n'avons reçu que 2 réponses positives. Celle de Fabien Roussel et celle de Marine Le Pen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les autres s'en cognent des gosses ? 160 000 enfants violés par an en France, c'est annexe ? Ça passe après le Covid, le prix du gaz, le pouvoir d'achat, l'EHPAD, l'Ukraine, les sports d'hiver ? Un pays qui ne protège pas ses enfants, c'est quoi ? C'est un pays qui est mort. Je demande donc à tous les militantes, à tous les militants, de foutre la pression à leurs candidats pour qu'ils arrêtent de faire les autruches, de nous raconter qu'ils sont surchargés ou qu'ils ont piscine. Je compte sur vous. Les Mélenchon, Jadot, Pécresse, Zemmour, Hidalgo, Taubira, Poutou, Macron et tous les autres, n'oubliez pas que qui ne dit mot consent. Merci.
RLP. Radio Libre en Périgord.
Alain Rioux des Papas en Action qui nous explique la problématique de la DPJ, protection de la jeunesse à Québec, avec la fameuse loi 15 qui est en train d'être travaillée, qui affaiblit considérablement l'autorité parentale et renforce extrêmement celui des services sociaux qui gagnent leurs demandes de placement ou de prise en charge avec 90,5%. Est-ce qu'il est possible de dire que dans cette loi, philosophiquement, en fait, l'enfant n'appartient plus à la famille mais à l'État ? Est-ce que c'est vers ceci que l'on va ? Est-ce qu'il y a véritablement une volonté de législateur pour aller dans cette direction-là?
Écoutez, une des dernières séries que j'ai produit d'émissions, j'ai intitulé L'enfant du gouvernement.
Ah,
les enfants, ouais, du gouvernement. Et,
donc ils ne sont plus à nous, ils sont à l'État.
Et si je vous ramène, par exemple, à la dernière réunion bisannuelle du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies qui a eu lieu les 16 et 17 septembre dernier, un des thèmes principaux, c'était le placement inutile des enfants. Et on se rend compte de plus en plus que les États, comme on va dire le G7, les États plus industrialisés, commencent à faire du placement abusif des enfants pour des motifs qui ne tiennent plus la route et que dans ces placements-là, ni les enfants ni les parents ne sont écoutés, ne sont pas entendus. La volonté des parents et la volonté des enfants n'est pas écouté. On va contre le gré, c'est l'État qui décide. Et il y a eu des enquêtes en Angleterre il y a quelques années par les Nations Unies sur le placement abusif des enfants.
Oui, nous en avons aussi un certain nombre en France, hein. On a du mal à voir les chiffres, comme d'habitude, mais on est à plusieurs centaines de milliers. Un placement abusif chez nous a la définition suivante. Une solution alternative n'a pas été recherchée, alors que c'est obligatoire. Et on n'a pas privilégié un placement dans la famille, alors que normalement c'est obligatoire aussi. Donc on les appelle effectivement abusifs.
Oui, bon, on pourra les appeler des placements arbitraires.
Oui.
C'est pas aussi dans notre jurisprudence depuis le début des années 2000, la Cour suprême, il y a eu une cause, c'était pas avec le Québec, mais avec le Manitoba, sur une question similaire. Donc, à savoir si l'intervenant de la protection de la jeunesse peut se saisir d'un enfant sans qu'il y ait un danger pour l'enfant. Parce que dans les lois, initialement, il fallait que, on appelait ça au début chez nous, les mesures d'urgence. Aujourd'hui, on appelle ça la mesure immédiate. Et j'ai fait une demande d'accès à l'information au printemps dernier et j'ai trouvé que les mesures immédiates ou les mesures d'urgence ont doublé dans les 10 dernières années. Et une mesure d'urgence, c'est qu'on arrive chez les parents après un signalement et qu'on prend l'enfant pour 48 heures ou deux fois 48 heures si ça tombe la fin de semaine. Donc là, on part avec l'enfant et après ça, on demande une prolongation de 5 jours. Donc, en 2000-2001, la Cour suprême a tranché que l'intervenante pouvait se saisir d'un enfant sous le prétexte de prévention, pour prévenir. Donc, s'il y a un présumé risque d'agression ou un présumé risque de mauvais traitement, on peut se saisir de l'enfant, il n'y a pas besoin d'avoir un mandat, on arrive à la maison avec les policiers et on part avec les enfants. Je vous donne un exemple d'une famille marocaine qui était de passage au Québec et à cause de la pandémie, ils ne pouvaient pas retourner dans leur pays et la maman marocaine s'est chicanée avec une voisine qui était une journaliste. La voisine a appelé la DPJ qui est arrivée. Eux autres, ils connaissaient pas le système, donc ils ont pas voulu répondre. La DPJ est revenue avec la police. Ils ont défoncé les portes de l'appartement. Ils sont partis avec les 5 enfants, simplement sur le prétexte que les enfants étaient pas capables de répondre convenablement dans la langue française aux intervenantes. Et une semaine plus tard, on a ramené les enfants à cette famille-là. Mais ça cause un préjudice grave aux enfants.
Ils étaient contents, oui, bien sûr.
La famille m'a raconté que les enfants étaient très perturbés quand ils sont revenus. Donc, dans les dernières années, j'ai entendu des centaines et des centaines d'histoires qui sont
Est-ce que c'est
vraiment
une volonté législative du gouvernement? Je veux dire, est-ce que l'État cherche vraiment à affaiblir la famille traditionnelle et à prendre la main sur la gestion des enfants? Est-ce que c'est juste cette loi-là qui est arrivée par hasard ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté étatique?
Ben, c'est comme je vous disais tout à l'heure, dans le fond, c'est suite au décès d'une petite fille qui est maltraitée.
C'est en réaction à un événement, alors. C'est une réaction.
Oui, c'est une réaction à un événement. Toutefois, ce qui est malheureux, c'est que le gouvernement du Québec, selon mon opinion personnelle, a menti à la population québécoise pour faire passer sa loi. Et je m'explique. C'est que on a fait croire à la population que la petite fille était décédée, si vous voulez, à cause du principe de la primauté parentale. Par contre, c'est un dossier qui avait été ouvert à la naissance de la petite fille et ça faisait 7 ans que le dossier était ouvert, qu'il y avait eu plein de signalements, il y a eu des jugements. La DPJ était au courant de la situation de cette petite fille-là. Il y avait eu plusieurs signalements, mais pour de la négligence administrative de ce secteur-là, on a laissé traîner le dossier, il y a eu des changements d'intervenants, et avant qu'on fasse quelque chose, la petite fille est décédée. Alors, en vérité, il s'agit d'une négligence administrative de l'État et non pas une faute de primauté parentale, parce que c'est ridicule. L'État gagne déjà 99 % de toutes ses demandes de prise en charge et place des milliers d'enfants à chaque année. Donc là, on vient nous dire que cette petite fille-là est morte à cause de la primauté parentale. Ça ne tient pas la route parce qu'il y a des milliers d'enfants qui sont placés à chaque année et la DPJ gagne toutes ses causes. C'est une négligence dans ce dossier-là. Et sur la place publique, dans les grands médias, on fait croire à la population que c'est à cause que l'État doit renverser la primauté parentale pour placer un enfant. Donc là, on enlève, si vous voulez, des droits aux parents pour placer les enfants plus facilement sans avoir à démontrer une preuve extensive, si vous voulez. Et c'est ça le changement de la loi. Donc, on enlève des droits aux parents. C'est comme si on a transféré une faute de l'État sur le dos des parents biologiques.
Je pense au jeune homme imprudent qui prend entre 6 mois, 2 ans pour un désordre assez minable et ce que la loi n'atteint pas. On a devant soi la justice et l'apparence de la justice. La nuance est indéfinissable, ce qui est pris ne se rend pas. Selon que vous serez puissant ou misérable, etc., etc. Il y a la rumeur provinciale qui prend l'allure phénoménale d'un drame humain considérable multiplié par les médias. Lorsque l'attaque et la défense se risquent au jeu de l'éloquence, il faut des hommes irréprochables où dans le doute on s'abstiendra. Selon que vous serez puissant ou misérable, etc., etc.
Voilà, Alain Rioux des Papas en action, dites-moi, est-ce que dans le fonctionnement de la DPJ, il y a des problématiques d'argent? Je veux dire, est-ce que placer un enfant, ça représente un budget? Est-ce que cette notion d'argent intervient dans les placements au Québec?
Bien entendu, il y a une notion d'argent. Et aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on assiste internationalement, notamment dans les pays industrialisés, à un placement, disons, arbitraire et excessif des enfants, comme... Si on utilise les mots du Comité du droit de l'enfant des Nations unies, on appelle ça le placement inutile. Donc, il y a de plus en plus de placements inutiles. Et derrière tout ça, il y a des gros sous. Par exemple, au Québec, le budget en protection de la jeunesse, le budget annuel, c'est 1,5 milliard maintenant. Et dans les 5 dernières années, ou entre 2014 et 2019, le budget qui est alloué pour les familles d'accueil a augmenté de 30 % en 5 ans. C'est-à-dire que ce budget-là est rendu maintenant à 300 millions de dollars, c'est-à-dire c'est une grosse partie du budget de 1,5 milliard. Et il y a peut-être un 200 millions qui s'en va dans les poches des avocats et des juges. Donc, un tiers de la protection de la jeunesse, c'est pour les avocats et les familles d'accueil. Et moi, je parle d'entreprise en famille d'accueil et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'une famille d'accueil va avoir, si vous voulez, un revenu qui n'est pas imposable d'environ 20 000 à 40 000 $ par année par enfant et la famille d'accueil peut accueillir jusqu'à 9 enfants. Donc, si vous faites le calcul simplement, ça veut dire qu'une famille d'accueil peut avoir un revenu supérieur au revenu du premier ministre du Québec, par exemple. Donc, ce qui est beaucoup d'argent et, comme le disait une personne du Comité de l'enfant des Nations unies, les problèmes qu'on trouve dans les familles biologiques, on les retrouve aussi dans beaucoup de familles d'accueil.
Ces familles d'accueil, est-ce qu'elles sont vérifiées? Parce qu'en France, elles sont contrôlées une fois toutes les 27 ans, en moyenne.
C'est des données que je ne possède pas et qui, c'est très difficile d'obtenir les données véritables sur cette situation-là. Toutefois, il s'agit maintenant d'un lobbying important de la part des familles d'accueil et c'est ce que je reprochais aux députés qui siègent sur la commission. Comment se fait-il que vous refusez d'entendre en consultation particulière les familles biologiques alors qu'ils sont les premiers responsables de l'enfant et que vous recevez les représentants des familles d'accueil?
Mais on le comprend. Ça devrait être palliatif pour des situations graves où la famille est véritablement défaillante ou absente. En théorie, ça devrait être comme ça.
C'est supposé d'être ça, en théorie. En théorie, c'est ça. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement engage des jeunes filles de niveau collégial, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de diplôme universitaire et qui débarquent au DPJ. On leur donne des formations de quelques heures à deux semaines de formation et ils sont sur le terrain et ils prennent des décisions pour la famille. Mais ces jeunes filles-là ont 20 ans, 21 ans.
Elles n'ont jamais eu d'enfants, elles ne savent pas ce que c'est que gérer un conflit familial.
Non.
Et on les lâche dans les familles et sur la foi de leurs paroles, on vient chercher les enfants, c'est ça?
Oui.
Oui, non, mais effectivement. Mais
le droit est là, je veux dire, c'est leur droit.
C'est la porte ouverte à beaucoup de problèmes, ça.
Et c'est aussi ce que je dénonce dans le sens que il faut faire la différence en droit administratif. Qu'est-ce qu'un pouvoir général, un pouvoir ministériel, un pouvoir législatif, un pouvoir réglementaire et un pouvoir discrétionnaire? Par exemple, la ministre de la Sécurité ou le ministre de la Sécurité publique peut décréter que pour la COVID, par exemple, on va donner des contraventions à certaines personnes pour certaines raisons. Toutefois, ce n'est pas le ministre qui va aller frapper à la porte des citoyens pour leur donner une contravention. Il ne possède pas ce pouvoir-là. Le ministre possède un pouvoir général, alors que le policier possède un pouvoir discrétionnaire. C'est lui qui applique la loi. Donc, en protection de la jeunesse, c'est la même chose. Ce sont de jeunes filles qui se retrouvent avec un pouvoir discrétionnaire qui est plus grand que le pouvoir d'un policier.
Sur le très vieux chemin du vice que les hommes ambitieux choisissent, on sait des montages incroyables, des lingots d'or, des chèques en bois. Nous en avons connu en France de ces bons vendeurs d'indulgence qui ont ruiné le contribuable. Il y a des choses qu'on n'oublie pas.
Alain Rioux, des Papas en Action de Québec. Nous avons parlé de la loi 15 qui affaiblit les droits parentaux, qui renforce les services sociaux. On voit que ça brasse énormément d'argent, un petit peu comme en France aussi, même si la répartition se fait différemment, mais nous avons aussi ces problématiques-là en France. Nous avons, nous en France, un problème aussi quand l'ASE vient, l'assistance publique vient récupérer les enfants. Nous avons des problèmes de foyers où il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de viols, et puis les interventions de l'État, les enfants qui sortent des interventions de l'État sont pour la plupart du temps sous-qualifiés, sous-diplômés, beaucoup terminent SDF parce qu'ils sont abandonnés à 18 ans de manière extrêmement brutale. Quelle est la qualité de la DPJ au Québec? Est-ce qu'on s'occupe correctement des enfants qui sont placés? Est-ce qu'ils vont aussi en foyer? Est-ce que leur intégrité physique est en danger? Est-ce qu'on s'en occupe bien? Ou est-ce que vraiment ça veut dire les condamner à un avenir très approximatif?
Je pense que le dernier mot est juste.
D'accord.
Très approximatif. Premièrement, les données sur les qualités des personnes qui travaillent pour cet organisme-là sont inconnues. On ne connaît pas les qualités des personnes qui sont engagées. On n'a aucune donnée à ce niveau-là. Toutefois, moi, je sais, pour avoir parlé à des intervenantes seniors qui ont travaillé là, que c'est de plus en plus du jeune personnel. Et on sait aussi, à travers la commission Laurent, qui offre des consultations publiques, qu'il y a un roulement énorme de personnel et que le personnel va et vient. Et manifestement, c'est des gens inexpérimentés qui ont ce pouvoir immense entre les mains de se saisir des enfants, de les placer à volonté. Et c'est très malheureux pour la société qu'on en soit rendu à ce point-là.
Mais est-ce qu'on arrive à avoir des statistiques? Est-ce qu'on peut dire que la DPJ produit des sans-domicile fixe ou des personnes sous-diplômées? Ou est-ce qu'elles arrivent vraiment à les instruire et à les former pour la vie? Est-ce qu'on a des informations par rapport à ça?
Il y a quelques informations. Même, je vous dirais, dans la commission parlementaire, les députés en parlaient il y a deux jours, on crée beaucoup d'itinérance avec ces gens-là qui, à partir du jour où ils atteignent l'âge de 18 ans, sont pratiquement mis à la rue.
Oui, très violemment, ils sont abandonnés. Oui, oui, bien sûr. Et ils n'ont pas été amenés à un métier. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils sont mis à la rue comme ça, sans aucune...
Il semble que dans les centres de réadaptation et tout ça, qu'il se passe beaucoup de choses difficiles.
D'accord.
Mais ce qui n'a jamais tenu, c'est une république sans vertu. La Fontaine écrivit sa femme.
Ah, fuck!